Alors, nous terminons ce parcours le jour de la fête de l'Annonciation. Et c'est la Providence, je trouve, fait bien les choses. C'est ce moment où, au fond, l'ange révèle à Marie qu'elle va être le lieu de l'incarnation même de Dieu, qui sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, on se met particulièrement sous sa protection ce soir. On lui demande d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de ces béatitudes qui se terminent avec cette dernière béatitude qui n'est pas la plus facile à commenter, il faut bien le dire. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute et si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors on va essayer de comprendre cette béatitude qui paraît très paradoxale. On ne voit pas en quoi ça rend heureux d'être insulté, persécuté. Et pour ça, je partirai d'une anecdote. Le 2 mars 1274, saint Thomas d'Aquin était sur le point de mourir. Il a reçu l'Eucharistie pour la dernière fois. Et il parle assez peu, évidemment, comme dans ce genre de situation. Et sa dernière parole est la suivante. Au moment où on lui donne l'Eucharistie comme viatique, « Je te reçois, prix de mes efforts, viatique de mon pèlerinage, pour l'amour de qui j'ai étudié, pour l'amour de qui j'ai veillé, pour l'amour de qui j'ai travaillé, prêché et enseigné. » Au fond, cette parole... Pour l'amour de qui, pro quis amore en latin, c'est le sens même de la 8e béatitude. Je te reçois, toi, pour l'amour de qui j'ai fait tout ce que j'ai fait. Parce que si vous regardez bien la béatitude, Jésus dit, heureux êtes-vous si on vous insulte, à cause de moi. On pourrait traduire donc pour l'amour de moi, en fait. S'il y a béatitude ici, c'est parce que on est heureux de faire tout ce qu'on fait pour l'amour de Jésus. C'est ça la clé de cette béatitude, me semble-t-il. Être insulté n'a rien de heureux en soi. Être critiqué pour ses fautes, ce n'est pas du tout une grâce. Mais être haï à cause de Jésus, pour l'amour de Jésus, alors ça peut être une béatitude. Être pauvre ne rend pas heureux, mais être pauvre pour Jésus peut rendre heureux. Pleurer ne rend pas heureux, mais pleurer à cause de Christ rend heureux. Et on pourrait reprendre chacune de ces béatitudes à partir de cette parole décisive, à cause de moi. Tout est là, et ça donne alors le sens même de toutes les béatitudes, en fait. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est que précisément, cette 8e béatitude est la clé de lecture des 7 qui précèdent. C'est une sorte de confirmation et d'explicitation des 7 premières béatitudes. Saint Augustin disait « Il y a 7 degrés dans le travail de la perfection et la 8e résume tout dans la gloire. » Donc Saint Thomas d'Aquin, à la suite de Saint Augustin, va affirmer que la 8e béatitude est en fait un résumé des 7 précédentes. « Il y a 7 degrés dans le travail de la perfection et la 8e résume tout dans la gloire. » D'où son importance particulière, alors qu'elle semble peut-être la plus difficile à comprendre. Encore saint Augustin, il dit « Elle désigne le feu même qui met 7 fois l'argent à l'épreuve. » Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre ce soir, comment la 8e béatitude nous permet, au fond, de comprendre plus en profondeur les 7 précédentes. Comment elle est le feu qui met 7 fois l'argent à l'épreuve. Et ça va nous permettre aussi d'aller jusqu'au bout du mystère de la charité fraternelle, puisque tout ce parcours avait pour but de nous aider à vivre davantage le commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va terminer donc ce soir avec peut-être la chose la plus étonnante qu'a dit Jésus, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Alors avant d'entrer plus avant dans cette béatitude, 3 remarques préliminaires. Vous remarquerez que la 8e béatitude est répétée 2 fois. Enfin, il y a 2 fois le mot « heureux » dans cette 8e béatitude. Hein. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, etc. En fait, donc, le mot heureux est répété deux fois ici, peut-être par souci d'accentuation, mais aussi parce que ça fait à ce moment-là intervenir neuf fois le mot heureux. On a donc sept béatitudes, la huitième est un résumé, et pourtant on a neuf fois le mot heureux. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le chiffre 9 est le dernier de la suite décimale. Ensuite, vous passez à 10, donc vous revenez à 1, puisque 10 c'est 1, et 0 donc c'est 1. Une fois que vous êtes à 10, vous revenez au point de départ. Et donc, en fait, le 9 est toujours un chiffre qui symbolise l'achèvement d'un processus. C'est pour ça que c'est le chiffre de la naissance aussi, 9 mois. Donc c'est le chiffre d'un passage, c'est le chiffre d'une naissance. Ça veut dire que, après avoir vécu toutes les béatitudes, voilà, nous sommes prêts pour renaître. Ici-bas, sur Terre, nous vivons les 8 béatitudes et nous sommes alors prêts pour naître au ciel. Deuxième remarque, on peut noter le lien particulier entre la 8e béatitude et la première, puisque dans les deux cas, il est promis « Le royaume des cieux est à vous ». C'est les deux béatitudes d'ailleurs qui sont au présent et non pas au futur. Les autres sont, oui, heureux les doux, ils hériteront de la terre, heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde, c'est au futur. La première et la huitième sont au présent. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les persécutés, le royaume des cieux est à eux. Donc la huitième béatitude renoue avec la première. Elle rentre ainsi dans la première, on peut dire. La boucle est bouclée, le cycle des béatitudes est achevé. Le pauvre a tout quitté, le persécuté a tout donné. Tous deux ont trouvé le royaume. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Étant donné que la huitième béatitude est une sorte de confirmation de toutes les autres, dit-il, les récompenses de toutes les béatitudes lui sont dues. Voilà pourquoi on revient à la récompense promise au début, le royaume des cieux, pour faire comprendre que lui sont attribuées logiquement toutes les récompenses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont persécutés à cause de Jésus ont le royaume, ils ont la consolation divine, ils ont la terre en héritage, ils ont la miséricorde, ils sont rassasiés de justice, ils ont la vision de Dieu, ils sont appelés fils de Dieu. Tous ceux qui, au fond, auront passé leur vie à faire ce qu'ils font à cause de Jésus, eh bien, ils ont cela. Je pensais à ça en pensant comment remercier tous ceux qui ont participé, notamment dans l'animation de ce parcours. Je me disais, mais au fond, on a fait tout ça à cause de Jésus. Et c'est ça la plus grande béatitude qui est pour nous, c'est de dire au fond, oui, il y a ceux qui sont en cuisine, en train de terminer le magnum, il y a ceux qui sont sur les tables en train de festoyer, et tout ça pourquoi ? À cause de Jésus. Et en fait, ce qui nous a mobilisés, ce qui a fait que vous êtes venus aussi, c'est à cause de Jésus. Et donc c'est beau de terminer avec cette béatitude, parce que c'est vraiment la clé de lecture de nos vies. Une vie aura été vraiment chrétienne si elle a été vécue à cause de lui. Tout est là. Alors il y a aussi un lien profond entre la huitième béatitude et celle des affamés de justice, puisqu'il est dit ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc il y a un lien, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc un lien particulier entre la huitième et celle des affamés de justice. Parce qu'au fond, c'est à partir du moment où on cherche la justice qu'on est persécuté. Si les chrétiens n'étaient que des gens gentils, tranquilles, on la regarderait avec un sourire condescendant, on hausserait les épaules, les chrétiens alors gêneraient personne. Mais dès lors qu'un chrétien cherche la justice, il commence à déranger. Il devient un reproche vivant, il devient une épine dans le pied, et alors on le persécute. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est fidèle à l'Évangile. Et Jésus l'a dit, hein, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. » Donc c'est bien à cause de Jésus. Le disciple n'est pas supérieur au maître. Si on a persécuté le maître, on persécutera le disciple. Alors cela étant dit, maintenant il faut essayer de comprendre « Heureux ceux qui sont persécutés en son nom ». Il faut comprendre ce que représentent les persécutions. En fait, tant qu'on ne comprend pas ça, on ne voit pas bien en quoi cette béatitude est chrétienne. Il faut distinguer en fait les persécutions et puis les tensions, les conflits de la vie quotidienne. Toute vie implique une tension. Même au repos, votre corps est tonique, sinon vous êtes mort. L'hypotonie absolue, c'est les premières heures de la mort. L'hypotonie, c'est une maladie plutôt. Normalement, il y a toujours un tonus musculaire, même au repos. La vie implique une tension, et même un combat. C'est le fameux combat pour la vie dont parlait Darwin, « struggle for life ». Toute vie implique une certaine lutte. Donc ça n'a rien de chrétien, c'est le propre du vivant, en fait. Alors, ce qui est peut-être une lumière chrétienne sur ce combat, c'est que depuis le péché originel, le combat s'est accru. Pendant le bonheur du paradis, c'était assez paisible quand même comme vie, même s'il y avait de la tension, parce que le vivant implique la tension. Mais depuis le péché originel, eh bien, le bonheur paradisiaque, il est derrière nous. Il faut affronter aujourd'hui les aléas de la vie, la faute, la souffrance, tout ce que Karl Jaspers, le philosophe, appelait les situations limites, des problèmes sans solution. La mort, par exemple, c'est un problème sans solution. On va mourir, on n'y peut rien. Le hasard, il y a toujours des hasards malheureux dans la vie, problèmes sans solution, situations limites. La faute même, dit-il, il est impossible de ne pas fauter. Et donc il y a un ensemble de choses comme ça qui sont des problèmes que je ne pourrais pas éviter dans ma vie, chrétien ou pas. Alors, pour les vivre, on a besoin des autres, mais les autres aussi sont un problème. Alors, peut-être pas l'enfer, comme disait Sartre, mais au moins un problème. Une solution aussi, Aristote disait, sans amis, personne ne voudrait vivre. C'est une très belle phrase d'un philosophe de l'Antiquité. Sans amis, personne ne voudrait choisir cette vie. Et pourtant, l'autre est aussi une épreuve. Notre rapport à lui est dialectique. On a besoin de sa présence, mais en même temps, quand il est trop présent, ça commence à nous déranger aussi. Et c'est ce qu'on appelle le dilemme des hérissons. C'est un philosophe, Schopenhauer, pas un grand optimiste quand même, Schopenhauer qui dit « la vie est comme un pendule entre l'ennui et la souffrance. Quand vous cessez de vous ennuyer, vous commencez à souffrir, mais quand vous souffrez, l'avantage c'est que vous ne vous ennuyez pas. » Mais alors vous arrêtez de souffrir, alors vous recommencez à vous ennuyer. Donc lui, c'est vraiment le plus grand pessimiste de toute l'histoire de la philosophie. Et alors il a écrit un texte qui s'appelle « Le dilemme des hérissons ». C'est comme ça qu'il envisage les rapports entre nous. « Par une froide journée d'hiver, un troupeau de hérissons s'était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là, entre deux maux, jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, poussent les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. En Angleterre, on crie à celui qui ne tient pas ses distances « Keep your distance ». Par ce moyen, le besoin de se réchauffer n'est à la vérité satisfait qu'à moitié, mais en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Et donc, belle vision, hein, belle vision des relations fraternelles, en fait, gentleman agreement. En fait, trop près, tu me piques, trop loin, j'ai froid. Donc voilà pourquoi on se marie. Alors, ou pas. Donc on choisit entre les piquants et le froid. Donc vous voyez, en tout cas, on est souvent en conflit évidemment les uns avec les autres et en même temps on a besoin les uns des autres, donc c'est compliqué. Mais ça, je veux dire, c'est l'aspect humain, après le péché originel évidemment, mais enfin ça reste tout à fait humain. C'est pas encore les persécutions au sens biblique. Les conflits sont humains, les persécutions en fait sont diaboliques. Au plan biblique, le concept de persécution renvoie pratiquement toujours au démon. À travers Pharaon qui persécute, c'est le démon qui veut la fin du peuple hébreu. À travers Hérode qui veut tuer les enfants récemment nés, eh bien, c'est le démon qui veut en finir tout de suite avec le Messie. Donc, au fond de la persécution, il y a toujours un mystère d'attaque diabolique. Personne n'échappe au conflit, ni les bons ni les mauvais, mais la persécution, elle est plus particulièrement le lot des justes, parce qu'ils sont haïs non pas malgré leur justice, mais à cause de leur justice, et c'est ça qui est diabolique. C'est précisément parce que Jésus est innocent et juste qu'il a été tant haï. Et là, on est dans l'ordre de la persécution. Il n'y a aucune raison de haïr cet homme. On le hait parce qu'il est juste, et parce qu'il est juste, il semble nous accuser. Il nous culpabilise par sa propre justice. Donc la persécution, c'est un aspect de la guerre séculaire de Satan contre Dieu. Et c'est ça qu'il faut entendre. Bienheureux les persécutés pour la justice, à cause de moi. Dès lors qu'on suit Jésus, eh bien le diable commence à nous prendre en haine. Le diable, il haït Dieu, sauf qu'il est inférieur à Dieu, donc il peut pas boxer Dieu, si vous voulez. En revanche, tout ce qui va lui rappeler l'image de Dieu, il va le haïr comme il hait Dieu. Et donc il va s'en prendre à tout ce qui ressemble à Dieu. Puisqu'il ne peut pas attaquer Dieu, il va au moins déchirer ses photos, si vous voulez. Un peu comme quelqu'un qui, si vous haïssez quelqu'un, il est trop fort, vous haïssez Michael Tyson, vous n'allez pas vous battre contre lui, eh bien, vous allez déchirer sa photo, piétiner sa photo. Eh bien, c'est un peu ce que fait le démon. Il ne peut pas se battre directement contre Dieu, donc il va essayer de saccager l'image de Dieu partout où il la voit. Et du coup, ben, il va détruire en nous, il veut détruire en nous tout ce qui ressemble à son ennemi, tout ce qui ressemble à Dieu. C'est pour ça qu'il y a un vrai combat spirituel entre notre âme et le démon. Il y a une image qui est souvent reprise dans l'art chrétien, c'est des hommes qui montent une échelle vers le ciel et puis des démons qui les tirent vers le bas. Alors c'est un peu naïf, mais c'est pas faux. Et l'Église le dit dans le Concile Vatican II, par exemple, un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès l'origine, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. C'est le Concile qui dit ça. Donc le Concile reconnaît qu'il y a un combat spirituel qui se joue avec des forces invisibles. Et pourtant, 8e béatitude, Jésus dit « heureux ». On n'a pas l'impression que ça rende très très heureux. Mais pourquoi alors Jésus dit « heureux » ? Ben parce qu'il n'y a rien qui met plus l'échec en échec le démon que de voir qu'on reste heureux malgré tout. Vous savez, c'est la phrase, hein, en avant, la manière hébraïque de traduire. C'est pas heureux comme un état de béatitude, puisque c'est génial d'être persécuté. C'est cheer up, en avant. Ouais, y a un truc, relève-toi, lève la tête, parce qu'à ce moment-là, tu es digne fils de Dieu. Vous voyez ? Saint Jean Bosco disait « Rappelez-vous que le diable a horreur des gens heureux. » C'est une des premières manières de se battre spirituellement, c'est d'essayer de raviver en soi les forces de bonheur, les forces d'enthousiasme qui nous restent, et de ne pas baisser trop vite la tête. Tant qu'il nous reste un peu d'énergie, relevez la tête parce que votre rédemption est proche. Le démon a horreur des gens heureux. Alors ça, c'est possible que si nous reconnaissons que nous sommes persécutés à cause de lui. En d'autres termes, on reconnaît qu'au fond, c'est son amour même qui nous persécute. Et là, on peut même inverser la béatitude, vous voyez. On peut dire, mais au fond, c'est même pas le démon qui me persécute. Au fond, c'est l'amour de Jésus qui me persécute. Alors ce que je vais dire maintenant peut sembler paradoxal. On va relire presque toutes les béatitudes à l'envers. Et je me demande si c'est pas en les lisant à l'envers qu'on en comprend vraiment le sens. Un peu comme en photo, quand on faisait avant de la photo, on développait les photos. Eh bien, on disait, on va le mettre dans le révélateur. Le négatif va passer en positif. Eh bien, je me demande s'il ne faut pas lire les béatitudes à l'envers. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et vous allez voir qu'à mon avis, c'est la vraie clé de lecture. L'amour de Dieu me poursuit. Il y a un passage d'ailleurs, la dernière fois, on a parlé du psaume 22. Vous vous souvenez, que vous avez appris par cœur dès cette semaine. Et il y a une phrase qui est souvent mal traduite. On dit « Grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie ». Alors déjà, grâce et bonheur, on pourrait discuter. En hébreu, c'est « Tov vachesed irdefuni kol yimei chayai ». Donc le verbe ici, c'est « irdefuni » qui vient du verbe « radaf », qui veut dire en fait « harceler, traquer ». Donc c'est pas « Grâce et bonheur me suivront gentiment ». C'est la grâce et le bonheur, ou disons ta bonté et ta miséricorde me poursuivront. Je suis poursuivi par l'amour de Dieu. Je suis harcelé par l'amour de Dieu. Et comme la brebis qui voudrait s'échapper, et le Seigneur dit non, tu m'appartiens. La jalousie, quand on parle du Dieu jaloux dans la Bible, c'est ça. Son amour est un amour jaloux, c'est-à-dire qu'il m'a pris pour cible, comme dit Job. Job dit ça, il a dressé comme une cible, il m'a dressé comme une cible, ses flèches me cernent. Vous avez des passages comme ça dans l'Écriture où on voit que, comme si Dieu me persécutait. Ou le psaume 139, derrière et devant tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. On pense à saint Pierre aussi, quand Jésus dit, et maintenant vous voulez partir, saint Pierre qui dit, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est plus fort que nous. Vous pensez au prophète Jérémie qui dit « Tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire ». À chaque fois que Jérémie parle, c'est des horreurs pour lui. À chaque fois, on veut le lapider, le tuer. Donc il dit « Mais je ne parlerai plus, il y en a marre. Je ne parlerai plus en ton nom ». Et puis après, il dit « Mais c'était comme un feu dévorant en moi, je ne pouvais pas m'empêcher, j'ai encore ouvert la bouche ». Et du coup, à la fin, on le tue. Il est comme persécuté par ce feu intérieur de l'amour de Dieu, qui fait qu'il n'y peut rien, mais il est son disciple, quoi. Et donc, on peut inverser maintenant les béatitudes en disant, au fond, c'est l'amour de Dieu lui-même qui nous rend pauvres, c'est l'amour de Dieu qui nous rend doux, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est pas tant la pauvreté qui va me donner le royaume, c'est la venue du royaume qui m'appauvrit. Quand tout d'un coup, la grâce de Dieu entre dans une âme, vous savez plus quoi faire avec. Vous devenez un pauvre. J'arrive plus à gérer. Moi, la grâce de Dieu, elle est trop grande pour moi. Et donc, en fait, ça vous appauvrit. La venue de Dieu dans votre vie va pas enrichir votre ego. Au contraire, ça va l'appauvrir. Vous vous souvenez le tzimtzum, la contraction. Vous allez faire de la place à Dieu. Forcément, à ce moment-là, quand vous faites de la place à Dieu, il a tendance à prendre toute la place, quoi. Au début, vous pensiez qu'il fallait juste ouvrir la porte. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je prendrai avec lui mon repas et lui avec moi. Ça avait l'air sympa au début. Je me souviens de mon père maître quand j'étais au noviciat. Une fois, il m'avait dit « Méfie-toi de lui, c'est un sauvage. » J'ai pas oublié. Et tu commences à lui ouvrir la porte, tu dis « Oh, bonjour !» Maintenant, je suis chez moi. Et il commence à tout prendre. Vous lui donnez le doigt, il prend le bras. Lévinas, le philosophe, a une phrase, alors c'est dans un autre contexte, lui, il est juif, mais il dit que l'autre, par son seul visage, me fait otage. Je suis comme otage d'autrui. À partir du moment où je fais face à l'autre, je suis responsable de sa vie, de lui. Et donc, on est devenu comme otage. Vous voyez, on inverse la perspective cette fois. Ce n'est pas moi, parce que je suis pauvre, que j'accueille le royaume. Tu parles. C'est parce que le royaume vient à moi que tout d'un coup, je deviens pauvre. Même chose pour la béatitude de ceux qui pleurent. C'est parce que je suis consolé par Dieu éminemment que je deviens capable de consoler les autres. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Je dirais plutôt, heureux ceux qui sont consolés, ils vont se mettre à fondre en larmes. Pensez au fils prodigue. Il revient vers son père, il est consolé par son père alors qu'il pensait ne plus être digne d'être son fils. Là, il a dû bien pleurer, le gars. Mais cette fois, c'est des larmes de bonheur. Vous voyez, donc c'est heureux ceux qui sont consolés par Dieu, alors ils vont verser beaucoup de larmes. Saint Dominique pleurait des nuits entières en disant... Que vont devenir les pécheurs ? Puisque moi j'ai été miséricordieux, que vont devenir les autres ? et les autres, Seigneur. Saint François se désolait en disant « l'amour n'est pas aimé ». Il pleurait, à tel point que le Seigneur, à un moment, lui dit « mais c'est bon, pas d'autre chose à faire que pleurer tout le temps ». Au début de sa conversion, il passait son temps à pleurer, Saint François. Donc le Seigneur a dû lui expliquer que « non, c'est bon, t'as assez versé de larmes, on va passer à autre chose ». Même chose pour la douceur. Quand on reçoit en héritage la terre du Seigneur, quand on s'enracine en lui, alors quelque chose en nous s'adoucit. Une fois que vous avez trouvé un lieu sûr, vous n'êtes pas toujours en train de défendre votre terrain. Vous pouvez devenir doux et humble parce qu'en fait, vous n'avez plus besoin d'être agressif. Vous avez déjà la terre promise. Vous êtes déjà chez vous en Dieu. À ce moment-là, j'ai rien à défendre. À ce moment-là, je peux être désarmé, puisque mon terrain, c'est Dieu. Donc, c'est pas moi qui vais défendre Dieu, c'est lui qui me défend. Donc, je peux me désarmer tranquillement. D'où la douceur. Même chose si vous reprenez à l'envers la question de la justice. C'est pas heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. C'est ceux qui sont déjà justifiés par Dieu, alors se mettent à avoir de plus en plus faim de justice. Si vous êtes déjà justifié par le Seigneur, vous avez envie que la justice de Dieu parvienne à tout aux confins de la terre. Et la justice ne suffit pas, c'est la miséricorde encore, mais là encore, il faut inverser la béatitude. C'est pas heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, c'est plutôt l'inverse. Heureux ceux qui on a fait, à qui on a fait miséricorde, alors ils ne peuvent plus qu'être miséricordieux avec les autres. Je me souviens de cette personne me disant, moi, après tout ce que j'ai fait, comment vous voulez que je pardonne pas aux autres ? J'ai été si bas que moi, je ne juge plus personne aujourd'hui. Ben, c'est extraordinaire, ça. Parce qu'au fond, tellement il a reçu miséricorde qu'il ne voit pas maintenant comment il pourrait ne pas faire miséricorde aux autres. Donc, heureux les pardonner, alors ils pardonneront. Alors la contemplation, c'est encore vrai aussi des cœurs purs. On dit « heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Alors on se dit « oh là là, je ne suis pas près de voir Dieu, moi, alors hein ». Mais non, c'est l'inverse. C'est heureux ceux qui commencent à voir Dieu, ceux qui le contemplent. Alors leur contemplation va les purifier. Et là, encore, si vous reprenez cette béatitude en la lisant à l'envers, elle a beaucoup plus de sens. Alors vous allez me dire « mais alors pourquoi je suis à l'endroit ?» Peut-être pour nous obliger à le découvrir nous-mêmes, je ne sais pas. Si, j'ai une possibilité qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie chrétienne, vous avez toujours un aspect moral, ascétique, et puis un aspect qu'on peut dire mystique. Dans l'ordre mystique, vous commencez toujours par le sommet. C'est Dieu qui vient à moi, et alors ensuite, progressivement, il me moralise. Il fait de moi un être moral. Mais d'abord parce que la grâce vient d'abord. Si vous êtes dans une autre perspective, c'est je vais être un homme moral et alors peut-être un jour, je pourrai enfin vivre d'une vie qu'être chrétienne. C'est un peu la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'est la loi d'abord. Et si maintenant tu es un homme légal, peut-être tu vas t'ouvrir à autre chose. Dans le Nouveau Testament, le premier à aller au ciel, c'est un larron. Tout de suite, il a la grâce, tout de suite, il a le ciel. Après, s'il était resté sur terre, il aurait eu à acquérir les vertus. Oui, mais la grâce lui est donnée tout de suite, et ensuite, il acquiert les vertus. Eh bien, je pense qu'il y a deux ordres comme ça. Vous pouvez regarder votre vie d'abord du côté moral, et ensuite, vous ouvrir à plus grand. Ou alors, tout de suite le sommet, et alors la suite va suivre. Je suis tout de suite pardonné par le Seigneur, et alors j'apprends à pardonner les autres progressivement. Je suis tout de suite dans la contemplation de Dieu, et alors progressivement, je me purifie. Et je crois que c'est ça l'aspect ultime de la vie chrétienne, c'est ce qu'on va appeler l'aspect mystique, c'est que je suis tout de suite en Dieu, par la grâce, et alors la nature va suivre. Et puis, les pacifiques, c'est pareil. Une fois que je sais que je suis enfant de Dieu, non par mérite, mais par grâce, eh bien, à ce moment-là, je commence à devenir... Tout se pacifie en moi. J'ai mon Père qui est là. Donc, j'ai plus à être en guerre avec tout le monde et avec moi-même. Je me laisse aimer par mon père, alors je suis pacifié. Et étant pacifié, je deviens pacifiant. Voilà, donc toutes les béatitudes, en fait, sont comme des effets de la venue du royaume qui nous persécute. Bienheureux ceux qui sont persécutés par le royaume, d'abord. C'est ce royaume qui nous transforme. Et alors, je vais terminer sur ça, sur le fait que maintenant, à partir de cette transformation intérieure qui vient, que le fait que le royaume vient à moi, eh bien, je peux commencer à aimer les autres et même mes ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, dit Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Alors, ce que dit Jésus est inouï, évidemment. Aucun philosophe, aucun sage, ni à Athènes, ni à Bénarès, n'a jamais osé parler ainsi. Vous trouverez nulle part une sagesse qui vous dit « Aime tes ennemis ». Il y a dans cette parole une sorte d'étrangeté divine. Elle vient d'ailleurs, elle est hors de portée, et elle nous semble même scandale et folie, comme la croix. Parce que normalement, ce qui engendre l'amour, c'est l'amour. L'amour engendre l'amour. Ce qui est naturel, c'est d'être amical avec les gens amicaux. Donc là, il y a quelque chose que nous dit Jésus, qui n'est pas naturel. D'ailleurs, Jésus dit, même les pécheurs en font autant. Être gentil avec les gens gentils, bon, ben, ça, il n'y a pas besoin d'avoir la grâce chrétienne pour ça. Hein. En fait, vous avez quatre cas de figure possibles. Il y a une logique du diable, vous faites du mal à ceux qui font du bien. Jésus est l'innocent, il fait du bien, vous lui faites du mal. Ça, c'est vraiment la logique diabolique. Vous avez la logique animale, vous faites du mal à ceux qui vous ont fait du mal. Œil pour œil, dent pour dent, voire sept fois plus. Et puis vous avez la logique humaine, vous faites du bien à ceux qui vous font du bien. T'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Et puis il y a la logique divine, vous faites du bien à ceux qui vous font du mal. Alors, on a l'impression que là, il faudrait respecter les ordres en fait. Que le démon agisse diaboliquement, ok. Que les animaux agissent animalement, ok, que les hommes agissent humainement et que Dieu agisse divinement, tout serait en place. Mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le problème. C'est que tout d'un coup, il nous dit comme, tout tient dans ce comme, c'est ça le commandement nouveau. S'aimer les uns les autres, bah ça, John Lennon est d'accord. Hein. Donc là, je ne dépasse pas beaucoup les Beatles, si je dis juste ça, vous voyez. Tout ce qui va changer, c'est comme je vous ai aimé. Alors là, ça change tout. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Il nous a aimés humainement, mais il nous a aimés divinement aussi. Donc ça change les ordres. Et donc tout d'un coup, il nous dit, si tu veux aimer comme je t'ai aimé, il va falloir aimer de façon humano-divine. Et donc comme Dieu, et Dieu, il donne le bien à ceux qui font du mal. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et donc, si je dois aimer comme Jésus a aimé, à un moment, il va falloir que ça aille jusque-là. Alors, aujourd'hui, on fête l'Annonciation. Quand l'ange est apparu à Marie et lui a dit tout ce qui allait arriver, et tout ce... elle a répondu quoi ? Comment cela va-t-il se faire ? Parce que on est avec un message qui nous dépasse totalement, finalement, cette venue du royaume en nous qui nous pousse à aimer même les ennemis. C'est tellement hors de portée qu'on n'a plus que cette réponse de la Vierge Marie aujourd'hui. Comment cela va-t-il se faire ? Moi, je suis un pécheur. Moi, je suis limité. Moi, je ne suis pas Dieu. Comment je vais pouvoir aimer, commencer à aimer même un tout petit peu, comme l'Évangile me le demande ? Eh bien, il n'y a pas de réponse humaine. La réponse sera exactement la même qu'à la Vierge Marie à Nazareth. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on dise « Fiat voluntas tua », qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne sais pas comment moi je vais pouvoir aimer mes ennemis. Je ne sais pas comment je vais pouvoir pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Si toi tu veux me donner cette grâce, alors tu vas me la donner, car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, on termine ce parcours sur la charité fraternelle en voyant que c'est quelque chose d'impossible à vivre, en fait. S'aimer les uns les autres façon Beatles, ça, tout le monde le peut. S'aimer comme le Christ nous a aimés, c'est hors de portée. Et donc, en fait, on peut être que mendiant de la grâce. Bienheureux les pauvres, alors le royaume des dieux est à eux. Marie est la plus pauvre des pauvres. Elle reçoit une révélation absolument incroyable, inouïe. Elle ne sait pas comment ça peut se passer, comment ça peut même être vrai. Elle dit juste qu'il me soit fait. Elle est disponible. Eh bien, c'est la seule chose que le bon Dieu, en fait, nous demande. Est-ce que nous sommes disponibles à entrer dans ce mystère ? Et je termine avec ça. Bénissez ceux qui vous persécutent. L'action de bénir, elle est très importante dans la Bible. Dès le cinquième jour, Dieu a béni la création. Il vit que cela était bon. Et puis, il a béni Adam et Ève. Avec Adam et Ève, il dit même que c'était très bon. Et Dieu ne fait que bénir, comme dit le curé d'Ars. Dieu ne sait que bénir. Il n'a pas maudit Adam et Ève. Hein. Il a maudit le démon, il a maudit le sol. Et même le sol, il a arrêté. En Genèse 8, après le déluge, il dit « Je ne maudirai plus la terre à cause des hommes. » Donc même la terre n'est plus maudite. Donc Dieu veut désormais absolument bénir. Il ne sait que bénir, encore une fois, comme dit le curé d'Ars. Alors l'Église, à la suite de Jésus, elle passe son temps à bénir. C'est le dernier geste d'ailleurs de Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, au moment de l'ascension, on nous dit, au moment où il s'éleva vers le ciel, il bénit ses disciples. Dernière chose qu'il a fait, c'est de bénir ses disciples. Et donc j'aimerais bien terminer comme ça, non pas en vous bénissant, mais peut-être à la fin on se bénira quand même, mais par ces paroles de Vincent Poussel, que tout homme est le plus obscur, le plus infirme, le plus dénué, déverse autour de lui les richesses d'en haut, plus précieuses que les trésors des rois. Ne feriez-vous que cela, votre carrière terrestre se réduirait-elle à cette bénédiction unique ? Croyez-vous que vous auriez traversé ce monde temporel sans contribuer à son progrès. Père, bénissez vos enfants si vous les aimez. Vous pouvez bénir les premiers après les prêtres. Bénissez-les afin que leur destinée, travaillée de puissance hostile, résiste et se redresse sûrement vers le rendez-vous. Terme de votre espoir. Enfants, bénissez vos pères. Hommes, bénissez les hommes. Ceux qui vous ont fait du bien parce que vous le leur redevez, et qu'ainsi toujours vous pourrez le leur rendre. Ceux qui vous ont fait du mal parce que c'est une fonction proprement divine que de changer les ténèbres en lumière, l'amertume en douceur, la douleur en joie, et de ressusciter ce qui était mort. Par la bénédiction, vous le pouvez. Bénissez ceux qui ne vous connaissent pas et qui ne vous veulent ni bien ni mal. Un jour, ils vous reconnaîtront et vous béniront. Bénissez-les tous et soyez comme des dieux. Alors cette semaine, petit exercice, bénissez. Quand vous marchez dans la rue, intérieurement, bénissez tous les gens que vous allez rencontrer. Vous verrez quand là c'est beau, vous faites une balade, vous voulez vous reposer un petit peu, vous allez marcher. Tous les gens que vous croisez, intérieurement, vous dites « Seigneur, bénis cette personne ». Vous voyez une vieille dame, bénis cette pauvre dame. Vous voyez un enfant, bénis-le, qu'il puisse grandir heureux. Vous voyez, etc. Et vous passez en fait intérieurement tout votre temps comme ça, dans la rue, à bénir tout le monde. Ben, je serais bien surpris qu'il n'y ait pas des choses qui se passent. Bonne. Alors voilà, bonne continuation, bonne discussion.